Bien. Bonjour messieurs, mesdames, merci de ne pas encore être partis en vacances. Alors, il nous reste cette heure-ci à, avant votre départ, à commenter donc la strophe, la fameuse strophe dite des jumeaux, le Yasna 30, strophe 3. Donc, nous avons donc le texte hein, avec la, la traduction, une traduction expérimentale que je reprendrai d'ailleurs sur un point. Il y a deux types de problèmes, comme je vous l'expliquais la fois dernière, pour parfaitement comprendre cette strophe. Il y a un problème syntaxique global. Il y a un problème syntaxique global. Et d'autre part, il y a savoir exactement le problème syntaxique, où s'arrête, où commence, quels sont les grands ensembles syntaxiques qui composent la strophe. Vous voyez bien qu'il y a un pronom relatif dans le premier vers, il commence le second hémistiche du premier vers. Où s'arrête cette subordonnée ? Alors, il est très clair aussi que le troisième vers, par contre, constitue à lui seul une proposition indépendante. Le problème, c'est la clôture de la proposition relative du second hémistiche du premier vers. Bon, ça, c'est le problème syntaxique global. Ensuite, il y a une multitude de difficultés sémantiques qu'il nous faudra bien, une fois le problème syntaxique résolu, affronter. Je pense que vous avez peut-être une référence à un article postérieur au texte vieil avestique qui a représenté une collaboration ultérieure, et la dernière d'ailleurs, entre Éric Pirard et moi, parce que cette strophe, pour des raisons diverses, une analyse de Gershevitch en 1996 l'avait remise en cause, et nous avions voulu, vous voyez le nombre de pages est déjà imposant pour une seule strophe, nous avions voulu véritablement cerner tous les problèmes qui pouvaient être contenus dans cette strophe. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer à ce journal asiatique. Alors, je pense que justement, le problème le plus facile à résoudre à la suite des recherches syntaxiques de Jared Klein, c'est le problème syntaxique. Parce que nous disposons, j'ai terminé, je pense, la dernière leçon sur ce détail, nous disposons d'une donnée qui est incontestable, et c'est la présence d'une particule enclitique. « He ». Particule enclitique au duel. Au duel, ça représente deux entités. Or, en syntaxe indo-iranienne, c'est vrai pour le védique, mais c'est vrai aussi pour l'avestique, une particule enclitique occupe quasi naturellement la seconde position de phrase. Elle indique d'une façon extrêmement claire, attention, le mot qui me précède, c'est le premier d'une phrase. N'est-ce pas ? C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Donc, en principe, « shiautanoï ». Alors, voyons ce que cela signifie pour notre texte. Nous avons ici, si nous en mettons à « hi » pour opérer le découpage syntaxique, cela signifie en gros que chaque vers est indépendant syntaxiquement. Chaque vers constitue un ensemble syntaxique indépendant. Vous allez me dire, attention, il y a le premier hémistiche du second vers, pouvez-vous objecter ? Oui, mais attention aussi à ce phénomène-ci. Nous avons affaire, dans ce second vers, les trois premiers mots du second vers, c'est la fameuse triade unitaire, pensée, parole et action. On peut considérer qu'un groupe de ce type, n'est-ce pas, qui est fréquemment associé, encore que nous verrons que ce n'est pas toujours le cas, mais dans cette association d'un ensemble qui définit le principe du comportement, il peut ne valoir qu'un mot. Hein. Ça, c'est un sentiment qui est le mien, qui est le mien. Pirard ne l'accepterait pas. Je vous ai déjà fait remarquer que Pirard est beaucoup plus fanatique que moi sur les faits grammaticaux. Et certainement pour Pirard, Shautanu est d'une façon stricte le premier mot de la nouvelle phrase, ce qui renvoie le premier hémistiche du deuxième vers comme complément du premier vers. Vous verrez que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je nous définirons immédiatement ce que cela signifie. Donc, on peut considérer qu'il y a un premier vers, le considérer comme un ensemble, alors que le premier hémistiche constitue à lui seul la principale, exige que l'on restitue un verbe. Et on peut le restituer à partir de la première strophe où nous trouvons « atta vakshya ». Cette espèce d'anaphore entre la première strophe et la troisième, n'est-ce pas, nous permet de restituer le verbe et le verbe de la proposition principale. Donc, je vais dire les deux manu, je ne traduis pas le mot provisoirement, antique, j'ai risqué antique. Nous commenterons cela tout de suite. Qui ? Alors, asruvatum est très clairement un passé. Ils ont été entendus, ils ont été connus. Être entendu, c'est être connu. Ils ont été considérés par le sommeil, littéralement, comme jumeaux. Et voilà la traduction du premier vers. Hein, on peut le considérer comme cela. Deuxième vers, le fait qu'il s'agisse d'une proposition indépendante dans le deuxième vers nous contraint à envisager manahi, vachahi, chautanoi comme des formes de locatif. Le locatif, c'est le lieu ou c'est le temps aussi. Donc, manahi, au moment de penser, au moment de parler, vachahi, chautanoi, au moment de faire un acte, au moment d'agir. Eh bien, il y a deux hi, hein, il y a deux pronoms nominatif singulier enclitique au duel, nominatif duel enclitique. Il y a deux manières de penser, de parler, d'agir. Vario, la meilleure, c'est un comparatif, ou la mauvaise, akum. Remarquez la différence avec la traduction de Duchesne d'Imain. C'est une traduction étrange, mais qui n'est pas propre à Duchesne d'Imain. C'est la traduction qui a été faite dans la tradition bartholoméenne, telle que Bartholomée voyait les choses. Il est évident que le meilleur, vario, acum, qui termine le deuxième vers, ne peut pas se rapporter au manu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre qu'il y a deux manu, un meilleur et un mauvais. Pour une raison simple, c'est que manu est un nom masculin et que ses adjectifs sont au neutre. Les seuls neutres qui se trouvent dans notre texte, c'est le nom de la pensée, de la parole et de l'action. Ou alors il faut fuir dans une sorte d'interprétation déjà philosophique des choses et considérer que les adjectifs bons et mauvais au neutre sont substantifiés et représentent les notions absolues de bien et de mal. C'est ce que laisse entendre la traduction de Duchesne d'Imain. Mais c'est une interprétation qui est arbitraire. D'une manière grammaticale stricte, ces deux adjectifs se rapporte à ce qui précède, c'est-à-dire au seul mot neutre que nous trouvons dans la phrase. S'il y a parmi vous des spécialistes des langues anciennes, ils vont tout de suite se rendre compte qu'il y a ici un phénomène un peu étonnant et qui a fait difficulté dans l'interprétation. Nous savons bien ce que sont des pronoms enclitiques. Or, dans les langues anciennes, en latin ou en grec, il n'y a pas d'enclitique au nominatif singulier. Il n'y a pas d'enclitique au nominatif. C'est une absurdité, une aberration. C'est vrai aussi au sanskrit. Et Gershevitch l'a fait remarquer. C'est une propriété de l'avestique. Il y en a incontestablement. Il y a des pronoms personnels aussi, même de la première personne, de la seconde personne, formant un nominatif enclitique. On ne peut donc pas, une partie de notre article, Pirard et moi, a consisté à le montrer. Mais du point de vue d'un philologue classique, c'est évidemment une absurdité. Hein, c'est une absurdité. Ça ne l'est pas en avestique, c'est étrange. C'est peut-être d'ailleurs un trait véritablement archaïque de l'iranien ancien. C'est pas... Et d'ailleurs, il y reste des résidus de ces nominatifs dans l'avesta récent lui-même. Alors, voyez ici, on peut tout de suite voir ce que la version Pirard, si nous ne nous entendons pas véritablement sur le point de savoir s'il faut considérer toute la triade comme un seul mot ou prendre seulement en considération Chautano, vous voyez que ça ne change pas grand-chose, simplement ça renvoie la pensée et la parole du côté du sommeil. L'opposition ne s'établit plus entre le sommeil, Coiffenard, et une manière d'agir qui passe successivement de la pensée, de la parole à l'action, mais au contraire, cela fait glisser la pensée et la parole du côté du sommeil par opposition globale avec l'acte. Ça ne change pas grand-chose. Ensuite, le dernier vers, le troisième, alors dans notre traduction, les généreux Houdanko font bien la différence, ils font la différence d'emblée, hein, tout de suite, de manière rectiligne. Non, Rush, c'est en droite ligne. Ils font d'emblée la différence entre les deux. Il y a évidemment ici ambiguïté, puisqu'il y a à nouveau un pronom duel, un pronom duel initial, qui est indifférencié quant au genre, donc ça peut se rapporter à la fois à la triade ou bien aussi aux deux manioux. Donc voilà, du point de vue syntaxique, voilà la traduction que je vous propose. La traduction correspond à cette analyse syntaxique. La syntaxe. La syntaxe pose un problème beaucoup... la sémantique, pardon. La sémantique pose un problème plus délicat. La question sémantique est multiple dans ce vers. Et les problèmes qui se posent à nous sont aussi d'ordre différent et de gravité extrêmement irrégulière. D'abord, une petite rectification qui va de soi. La traduction de Duchesne-Dumin, « Les intelligents choisissent bien, non les sots ». Nous savons maintenant, il faut bien faire avec ce sens-là, même s'il ne paraît pas peut-être adéquat au contexte, mais un mot comme « Houda », Humbard a définitivement montré, je pense qu'il faut accepter cela, qu'il avait un équivalent sanskrit védique extrêmement, tout à fait immédiat, c'est l'adjectif « Soudas ». Il y a un roi dans le Rig Veda qui s'appelle comme cela, le roi Soudas. C'est un beau nom programmatique pour un roi, puisque c'est le généreux, celui qui fait des cadeaux généreux. Donc, celui qui fait de beaux cadeaux, c'est ce que veut dire « Soudas », littéralement. Et « Dujda », c'est celui qui fait de mauvais cadeaux. On peut traduire par « avare ». Il y a une question subsidiaire, vous savez, une question subsidiaire. Est-ce que ces adjectifs « généreux, avare », hein, les dieux sont généreux, les démons sont avares, est-ce que cela désigne les dieux ? Dans certains contextes, il le semble, mais parfois aussi ça désigne des hommes. Ça désigne des hommes, semble-t-il. Et ces adjectifs ne sont pas suffisamment attestés pour que nous puissions faire un choix. Nous pouvons peut-être simplement conclure que la perspective est réversible. C'est une des possibilités les fréquentes. Alors, ceci, n'est pas et certainement un problème que nous pouvons considérer comme résolu. Il faut bien que nous admettions que ce dernier vers signifie « entre les deux », que ce soit le manu ou la triade, les généreux font bien la distinction, font d'emblée la distinction, pas choisir, hein, faire la distinction, faire la différence, et non pas les avares. Bien, alors, les autres problèmes sont beaucoup plus délicats, parce que c'est un problème de nuance sémantique. Les mots paraissent, sont bien connus. Leur sens premier est évident. Mais comment faut-il les comprendre ? D'abord, le premier, c'est la triade. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action, c'est très bien. Nous le voyons bien, c'est fréquent. C'est un topos insistant et même, je dirais, obsessionnel de la rhétorique de l'Avesta. Mais comment faut-il la comprendre ? Cette strophe passe pour un témoignage de dualisme éthique. Est-ce le comportement, hein ? Est-ce la bonne pensée et la bonne action, comme pour les zoroastriens d'aujourd'hui, dans notre conduite de tous les jours, dans notre conduite éthique ? Ou bien s'agit-il d'une triade essentiellement rituelle ? S'agit-il d'une triade rituelle? Je vous rappelle l'usage de cette triade dans le Yasna Haptankaiti, dans le Yasna 36, où il est question de certaines opérations rituelles qui consistent à sacraliser le feu qui vient d'être allumé. Là, il est beaucoup moins évident que la triade a un sens éthique. Beaucoup moins. Nous nous trouvons devant une opération rituelle. Et ici. Bon, nous poserons la question. Ça, c'est une question, je dirais, quasiment de contexte. Deuxième problème, un mot, je vais dire, d'une banalité totale. Premier, comment faut-il le comprendre? Comment faut-il comprendre premier? J'ai risqué antique, c'est une possibilité. Mais on peut jouer sur toute une palette de significations, toute une palette fondamentale. Premier en importance, premier en ordre d'apparition. Hein, antique, c'est cela. Premier en importance, on pourrait dire fondamental. Hein. Initial, si on juge que le maniou est à la base d'un comportement. Donc, il y a toute une interprétation d'une sémantique banale qui s'impose à nous. Hein. Cela, nous allons y revenir, parce qu'il faudra faire d'autres considérations. Alors, il y a le mot jumeau. Que faut-il comprendre par jumeau? Dès que le mot jumeau est prononcé, il est très difficile de ne pas lui accorder une signification mythologique. Hein, une signification mythologique dans le cadre d'un texte antique qui est, a fortiori, indo-iranien, car on songe à tous les mythes de jumeaux qui peuvent parcourir la littérature védique ou la littérature avestique. On pense à Yima, dont le nom même signifie jumeau. Hein. Et à son dialogue au sujet de l'inceste avec sa sœur jumelle Yami dans le Rig Veda. On pense aussi aux jumeaux d'Asatya, que Dumézil a érigé en représentant la troisième fonction. Il y a la naissance gemellaire des Aditya dans la littérature védique. Bref, une mythologie de la gemellité. Bon, c'est imparable. D'autant plus qu'ici, nous avons une forme verbale augmentée. Pour une fois, nous avons à coup sûr, asruvatum, ils ont été connus, ils ont été considérés. C'est un passé incontestable parce que c'est une des rares formes véritablement augmentées, clairement augmentées, dont nous disposons pour la littérature vieille avestique. Alors, le mot kwafna. En principe, le kwafna, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Mais vous voyez que Duchesne Guillemin n'est pas satisfait avec cela, puisqu'il ne traduit pas le mot. Il a reconnu, bien entendu, que c'était en tout cas un mot qui, d'apparence, était l'équivalent du sanskrit svapna, c'est-à-dire le sommeil. Mais ça ne lui paraît pas faire sens. Et il n'est pas le seul. Il y a, rappelez-vous, la vieille traduction de Martin Hauck, il traduisait cela, chacun d'une activité particulière. Eh bien, beaucoup d'interprétations ont consisté à donner de Kwafna une autre interprétation que celle par le sommeil. Je ferai remarquer une dernière chose aussi pour la triade, c'est le locatif. Regardez bien la traduction de Duchesne Guillemin. Regardez bien comment elle est. C'est extrêmement fréquent. Ils sont l'un le mieux, l'autre le mal, en pensée, parole, action. Trouverez l'équivalent de ce « en » dans les traductions anglaises « in hein, », anglaise ou allemande « in ». Humbard a fait remarquer à juste titre que c'était une traduction absolument abusive. Ça n'existe pas. C'est un calque pur et simple du confiteor chrétien. C'est pas péché en pensée, en parole, en action et par omission. C'est un pur calque. Cela ne peut pas traduire une phrase indo-iranienne. Je vais remplacer par le complément de temps, hein, bien sûr. Alors, comme ça, ça devient admissible. Ça devient admissible. C'est autre chose au moment de parler, au moment de... Bon, alors, être entendu par le sommeil, cela paraît curieux. Mais il faut aussi songer que cette complémentarité lieu-temps est valable aussi pour l'instrumental. L'instrumental est le cas du complément de lieu de passage. Il est donc aussi le cas du complément de temps de durée. Pendant le sommeil, hein, est une traduction tout à fait légitime et qui paraît beaucoup plus naturelle. Maintenant, nous allons poser la question peut-être essentielle au sujet de cette strophe, qui mérite tout de même qu'on s'attarde sur elle, vu son destin dans la pensée dans la pensée occidentale. Bien, c'est que, évidemment, la strophe que nous avons ici, nous nous en sommes rendus compte. Je vous ai dit, nous ne l'avons pas cherchée, elle est venue à nous. Ce n'est pas un monument théologique érigé au centre d'une place déserte. Elle survient dans un contexte. On n'a jamais invoqué le contexte pour expliquer cette strophe. Une fois, de manière tellement implicite que je m'en étais jamais rendu compte avant qu'on me donne l'information oralement. Dans son fameux livre sur Zoroastre, qui est fondateur de la conception dualiste du zoroastrisme en 1951, Hennink écrit quelque part que le dualisme zoroastrien est le résultat, le produit d'une pensée très claire. Une pensée très claire. Lorsqu'on lit ça, on voit bien ce qu'il veut dire. On veut dire que c'est par la réflexion philosophique qu'on arrive à la doctrine dualiste. Oui, mais c'est plus précis. Il ne le dit pas, mais en réalité, Hennink se fondait sur la strophe précédente, le Yasna 32, où, rappelez-vous, on trouve le nom de la pensée, bien sûr, Mananka, et on trouve à proximité de ce nom le nom Sucha, qui est clair, hein, la couleur de la flamme, ou la flamme elle-même. Nous avons traduit par flamme. Or, voilà, ça, c'est une tentative de faire intervenir le contexte. Mais il y a évidemment d'autres... il y a d'autres éléments dans la strophe qui précède. Il y a d'autres éléments. La première, c'est que le Yasna 32, il inaugure l'entrelacement du thème de la discrimination, faire la différence, hein, avec le mot « vichitarya », et du thème du choix, « avarnor », les choix de la discrimination. Voilà exprimé sous forme de substantif abstrait les deux actions dont il va être question désormais jusqu'à la strophe 6 en permanence. Le choix et la discrimination, les deux s'entrelaçant, se combinant en permanence. Et nous trouverons effectivement dans les strophes qui suivent, nous trouvons ici dans la strophe 4, nous ne trouvons rien, n'est-ce pas ? Nous trouvons alors dans la strophe 5, Varata, il choisit, donc c'est le côté avarnor. Et puis, retour dans la strophe suivante, du même verbe que dans la strophe 3, Eresh Vichata, faire d'emblée la différence, bien faire la différence. Donc, c'est la strophe 2 et pas la strophe 3 qui entame le thème entrelacé de la discrimination et du choix. Cela remonte au-delà de la strophe 3. Alors, tout de même, le nom du sommeil. Est-ce vraiment surprenant que nous ayons ici le nom du sommeil, alors que dans la deuxième strophe aussi, il soit question d'éveiller chaque homme, un homme après l'autre, éveillant un homme après l'autre, pour que son corps lui apparaisse. Bon, il me semble qu'il est assez naturel, enfin, on ne peut pas être surpris que le nom du sommeil apparaisse dans la strophe suivante. Et il y a un lien évident entre l'éveil de la strophe 2 et le sommeil de la strophe 3. Maintenant, le contexte général. Le contexte général proprement dit. Tout de même, voici deux leçons déjà que nous passons le temps à ça. Tout de même. Que se passe-t-il dans ce texte ? Car aussi, ce texte-là, ce n'est pas un début abrupt, ce n'est pas, comme je vous dis, une statue érigée au milieu d'une place déserte. Cela survient dans une opération rituelle qui consiste, avec une certaine lenteur, avec un certain nombre de phases, à faire la même chose que ce que font les prêtres du deuxième chapitre du Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire sacraliser le feu. Lui offrir sa dimension rituelle, progressivement. Alors, que se passe-t-il dans la strophe 3 ? Or, ce n'est pas une dissertation sur le dualisme religieux. Ce n'est pas une dissertation sur le bien et le mal dans le comportement des hommes. N'est-ce pas ? C'est tout simplement le moment où se produit, dans le processus de sacralisation du feu, l'identification du feu au Manyu. Ce qui établit tout de suite le Yasna 36, si vous vous souvenez. Hein ? Le Yasna 36, 1, d'emblée, mentionne le Yasna 36, 1, d'emblée, avec le clan fondamental de ce feu, Atro, nous te servons, et puis nous te servons par ton Manyu, Manyu, dans la même phrase, instrumentale, juxtaposé à Verzena, qui est déterminé par le nom du feu. Donc, c'est en formant le clan du feu et au moyen du Manyu que nous te servons, au Ahura Mazda. Donc, l'identification du feu et du Manyu sont accomplies. Ici, dans les Gathas, c'est la première fois, le nom du feu n'est toujours pas mentionné. Il le sera, d'ailleurs, en coordination avec le Manyu, dans le Yasna 31.3, comme il l'est là explicitement, aussi explicitement que dans le Yasna 36.1. Alors, je vous demanderai peut-être, maintenant que nous avons discuté toutes ces questions, que nous reprenions l'examen du Yasna 36. Du Yasna 36, parce que nous avons un texte explicite, beaucoup plus explicite que le texte gathique, et nous allons reprendre ce texte pour voir ce qu'il reste à présent des divergences que nous avons cru pouvoir établir avec le texte des Gathas. Bon, la liaison entre le feu et le Manyu, elle est acquise. La strophe 3 a ajouté le Manyu au tableau. La liaison avec la triade, dont il n'était pas question jusqu'ici, elle est accomplie. Hein, la triade fait l'objet du deuxième vers de la strophe 3, du Yasna 33. Donc, les phrases qui concernent la triade, il y en a deux dans le Yasna Rabtankaiti, 36.4, 36.5. Hein, la liaison avec la triade est faite. Alors, il nous reste un problème. Il nous reste un petit problème, mais nous allons, je crois qu'il va nous ouvrir des perspectives intéressantes. Et c'est ici que je fais devant vous mon mea culpa pour la traduction du premier hémistiche de la strophe 33. C'est le cas de l'adjectif pavruya, premier. Pavruya est mentionné dans la strophe 3-6. Pavruyé, c'est le dernier mot du premier hémistiche, je pense. Bon, il est mentionné aussi dans la première période du Yasna Habtankaiti. C'est le cinquième mot, paourouillé. Cette forme-là, paourouillé, de l'adjectif paourouya, pose un problème formel. Le thème est paourouya. Se termine dans nos textes par un « et » final. Il y a deux possibilités, un peu malaisées toutes les deux, enfin qui se prêtent à objection. Serait-ce un locatif singulier ? Si c'est un locatif singulier, l'adjectif premier ne se rapporte à aucun mot de la phrase. Il faudra donc lui donner une interprétation adverbiale, par exemple. C'est la position de Narten, hein, la position de Narten dans son analyse du Yasna Habtankaiti 1986. Et cette position a été adoptée par Almut Hintz dans son réexamen du Yasna Habtankaiti, qui est très récente, remonte, je crois, à 2009. Bien, donc c'est la possibilité formelle, c'est en apparence une forme qui peut être une forme de locatif singulier. L'objection que l'on peut faire à cela, c'est qu'il n'y a pas de locatif singulier adverbial avec l'adjectif premier dans le Rig Veda, ni d'ailleurs ailleurs dans l'Avesta. C'est une innovation. Pourquoi un locatif singulier? Alors que le nominatif singulier neutre, nominatif accusatif singulier neutre adverbial, paoirim, suffirait parfaitement à signifier au début. Hein, au début. Alors, Humbart, à un certain moment de son analyse des gathas, plus à présent, mais dans les versions antérieures, avait suggéré une autre solution qu'Éric Pirard et moi avions adoptée. C'était de considérer Paourouillet, comme un traitement phonétique qui est attesté par ailleurs d'un ya final, ya, en yé. C'est fréquent dans l'Avesta récent. Il n'y a que un seul exemple possible en vieille avestique, en dehors de celui-ci, si c'était le cas. C'est ce que Hinz nous a reproché lorsqu'elle a adopté la position de Johanna Martin. Donc, à ce moment-là, les deux Manu deviennent premiers, ce qui justifie ma traduction par antique, quoiqu'il y ait bien sûr une interprétation sémantique du sens de premier ici. Alors, je change d'avis. Je suis en train de changer d'avis. Je le dis ici maintenant, alors que j'ai préparé ce matériel il n'y a pas si longtemps, en restant fidèle à ce qu'Éric Pirard et moi avions fait. Mais je me suis rendu compte, ça c'est... Je me suis rendu compte qu'en réalité, nous n'avions que deux attestations de Paourouya comme possible qualificatif de Manu pour tout l'Avesta ancien. C'est ici, dans le Yasna 33, et c'est dans le Yasna 45.2, qui d'ailleurs est visiblement quasi identique, en tout cas évoque de manière extrêmement précise le texte que nous avons dans le Yasna 33, puisque c'est « At fravakshya, je vais proclamer les deux Manu, Paourouillet, Ankoch, de l'état d'existence. » C'est très joli, hein, parce que c'est une confirmation aussi de la restitution du verbe principal « vakshya hein, ».« Vakshya » dans le Yasna 33. Alors, après ce parallèle, voyons bien quels sont jusqu'ici, jusqu'à la strophe Yasna 33, les attestations de l'adjectif premier dans la Gatha Ahunavaiti. Dans la toute première strophe, si on met à part la Ahunavairya, Yasna 28.1, Yasa, je demande, objet de la demande, Paourvim. Ah oui, l'adjectif premier employé en substantif. Paourvim. Je demande le fait initial, le fait premier. Et maïnyosh spentaria au génitif singulier comme déterminant de paourvim. Je demande le fait initial du manu faste, spenta, bienfaisant. L'adjectif Paourouya, nous en avions d'ailleurs discuté lorsque nous avions ensemble examiné toutes les théories qui font des haïtigatiques, des textes construits en miroir. Et vous voyez que l'adjectif Paourouya ressurgit comme dernier mot de la dernière strophe du Yasna 28, avec donc « Enseigne-moi, Froma Shisha, Twarmat » Vaushanke Maïnyoj. Enseigne-moi à dire, Twarmat Maïnyoj, conformément à ton Manu. Le mot Manu est là, lui aussi. On parle à Mazda. Il faut comprendre les hymnes. Le mot là, ce n'est pas une véritable ellipse. On comprend bien que le mot, les hymnes dont le chantre se réclame, sont présents dans toute la fin du Yasna 28. Donc, apprends-moi, dit-il à Mazda, à réciter conformément à ton manu les hymnes par lesquels Yaïch, Ankush, état d'existence, comme dans le Yasna 45.2, par lesquels l'état d'existence deviendra, se constituera comme Pavruyo, premier. Ici, très clairement, l'adjectif est accordé à Ankush. Question d'un état premier. Donc, grâce au manu, la manière de réciter conforme au manu d'Ahura Mazda permet, il faudra que nous comprenions un jour ce que veut dire un état d'existence premier, permet à l'état d'existence premier de se constituer. Alors, voyons aussi ici, dans le Yasna 30, n'est-ce pas, dans le Yasna 30, ce que cela signifie. Dans le Yasna 30, nous avons les Mainyu Paurouye, et dans la strophe suivante, le Yasna 34, nous avons le fait initial, Paurvim, le fait initial, à nouveau une substantification de l'adjectif premier, le fait initial, que les deux Mainyu, ils sont au duel, se trouvent en contact. Ils se rencontrent, ils se trouvent en contact, eh bien, ce fait-là, cela soumet, etc., la vie, l'impossibilité de vie, et au fait que comment l'existence sera pour finir, comment l'état d'existence sera pour finir. Donc, à nouveau, la notion de premier, mais substantifiée dans le Yasna 34, et enfin, nous arrivons à l'ultime strophe que nous avons prise en considération jusqu'ici, la strophe où réapparaît l'ellipse, dans ce fameux dernier vers du Yasna 37 qui semble défectueux du point de vue de la transmission, mais où l'on trouve le verbe « a ankhat » qui correspond à « a bouvat » se constituer du Yasna 28-11 et où nous trouvons en tout cas aussi « pourio ». Pourio, dernier mot du vers, comme c'est le dernier mot du dernier vers du Yasna 28. Le mot Ankush manque. Le mot Ankush manque, hélas. Pouvons pas. Mais deux éléments sont communs, identiques avec le texte du Yasna 28. Alors voilà donc où nous en sommes dans le texte jusqu'à présent avec Pauruya. Dans le Yasna 36.1, oh, bah oui, nous avions interprété aussi Paurouye comme l'instrumental singulier accordé à Verzena. Mais tout de même, mes scrupules proviennent du fait que dans le Yasna 28.1, comme dans le Yasna 34, avec la forme Paurvim, nous avons une substantification évidente de l'adjectif premier. C'est un fait évident. Dès lors, le locatif n'est plus un problème. Si le sentiment que j'aurais actuellement, il demandera vérification, les craintes, elles sont déjà faites un peu, mais il nous faudra avancer dans l'enquête, n'est-ce pas ? C'est que s'il y a substantification, le locatif n'est pas adverbial. Il n'est pas adverbial. C'est tout simplement le locatif du nom, hein, le locatif de l'adjectif substantifié. Alors, comment comprendre un locatif ? Toujours de la même manière, comme un complément de temps. Nous sommes au moment du début. Alors, maintenant, dans le Yasna 33, je traduirai le premier rhizmistiche comme ceci. Maintenant que se produit le début, au moment du début, au moment du fait initial, je vais dire les deux manu. Je vais proclamer les deux manuels. Je renoncerai à antique j'adopterai certainement une interprétation par le complément de temps de Pavruyé. De la même manière, dans le Yasna 36.1, il faudra aussi peut-être, en formant le clan de ce feu, maintenant que se produit le début, nous te servons au maître Mazda, etc. Il y a donc référence un moment ressenti comme initial. Nous sommes donc plongés, de manière tout à fait claire, n'est-ce pas, dans le contexte d'une opération rituelle déterminée. Nous n'avons pas ici un mythe, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas un mythe. D'ailleurs, une forme verbale augmentée dans le cadre vieil avestique, c'est un passé, oui, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement. Car l'augment n'introduit jamais qu'une nuance particulière du passé par rapport à un présent. Si nous avons un thème daoïste, l'augment transforme la forme verbale en un passé rapproché. C'est le cas ici. Et dans le cas du présent, il transforme le présent en un passé antérieur à un fait présent. Ce sont des passés relatifs, si je puis me permettre l'expression. Nous n'avons pas un mythe. Ce n'est pas un mythe de deux jumeaux. Nous allons commenter brièvement ce mot pour en terminer avec cette strophe qui est très riche. Bien entendu, elle est riche aussi parce que nous l'avons enrichie en la discutant pendant tellement de fois depuis si longtemps. C'est un chaînon du cursus rituel en cours. C'est le début de quelque chose. Et dans ce cas-ci précis, du point de vue, en tout cas de la strophe gathique, peut-être aussi, puisque les deux mots sont là, du point de vue du deuxième chapitre du Yasna Haptankaiti, c'est le moment où le feu devant lequel les officiants se trouvent est identifié au manyu. Mot dont le sens reste à discuter. Alors voilà, la troisième différence, vous savez, la présence de Pauruya dans le Yasna Haptankaiti, mais désormais, cette différence est abolie, puisque la strophe du Yasna 33 a très exactement mentionné le même mot et la même notion. Alors, il reste une quatrième différence. Quatrième différence, c'est la dernière phrase, globalement. Globalement, la dernière phrase du Yasna Haptanka, du Yasna 36, le texte. C'est échapper vers le ciel. Dire que si le feu est l'image d'Ahura Mazda, que si le feu incarne dans le sacrifice, la forme visible d'Ahura Mazda, le mot kerp. Le mot kerp, n'oublions pas qu'il sera prononcé aussi dans la strophe du Yasna 37, la forme visible. Eh bien, cette forme visible, c'est un fragment de la grande lumière céleste qui parcourt l'espace depuis la Terre jusqu'au Soleil. Fragment de la. Puisque le texte, pour nous, il dit très exactement: nous te reconnaissons, ô maître Mazda, la forme visible qui est la plus belle parmi les formes visibles, ce ciel parmi les hauteurs, celle qui est aussi haute depuis que le Soleil. Que le soleil vu par quelqu'un d'ici-bas, ou bien depuis que le soleil a reçu son nom. Mais il y a tout un espace global délimité entre le feu rituel et le soleil qui se trouve dans le ciel. Or, ici, est-ce que cette notion, est-ce que cet échapper vers le ciel appartient aussi au texte de la Gatha ? Ben oui. Nous allons la trouver un peu plus loin, pas dans la strophe, pas dans l'Yasna 33, mais dans le Yasna 35. Alors, le trompeur d'entre les deux Manyu, car il y en a un mauvais, choisit Varata de faire les pires actes, tandis que le Manyu très faste, voilà notre Spenishta, qui se trouve dans première phrase du Yasna Haptankaiti, revêtu de pierres très dures. J'ai traduit par une participiale, ce qui est en réalité non relatif, parce que bon, ça passe mieux. Mais donc, le Manyu très faste, qui est revêtu de pierres très dures, choisit l'agencement. Et ainsi choisissent aussi ceux qui accueillent Ahura Mazda, avec zèle, Frau Roth, par des actes continus. Donc notre esprit très faste, revêtu de pierre très dure. Eh bien, la voilà notre échappée céleste. Hein. Voilà notre échappée céleste. Car comment comprendre cet hémistiche, dire que le Manu est revêtu de pierre très dure, sinon d'évoquer cette image indo-iranienne, hein, d'un espace où vivent les hommes, hein, comme une sorte de lieu enveloppé de pierre. Vers le haut, la pierre de la voûte céleste, car la voûte céleste est conçue comme étant de pierre, et vers le bas, les rochers terrestres, n'est-ce pas ? Se vivons dans une sorte de cloche de pierre. C'est l'image qui est évoquée ici. Donc, le Manu qui est revêtu de pierre, cela montre très clairement ce qu'est, bien entendu, le Manu. Du point de vue du monde osseux, n'oublions pas que les choses ont toujours deux aspects dans la littérature que nous sommes en train d'envisager, hein, l'aspect osseux, l'aspect matériel, mais osseux est le terme exact que les textes utilisent, et aussi l'aspect mental. Hein, l'aspect mental, le Manu, ah oui, c'est un dérivé du nom de la pensée, ça c'est son aspect mental. Mais son aspect osseux, c'est cela. Hein, c'est cela. C'est l'espace céleste. Hein, c'est l'espace. L'espace de la terre jusqu'au ciel. Hein. Ce que montre l'image, cette enveloppe de pierre, cette enveloppe de pierre double souvent, puisqu'il y a celle d'au-dessus et celle d'en dessous, hein, porte dans la littérature, le mot n'est pas ici, mais dans la littérature védique, c'est le pavasta, hein, l'enveloppe. Pavasta qui enveloppe l'espace où l'on peut vivre. Nous avons que le Manu représente du point de vue matériel l'espace céleste. C'est une représentation dont nous avons des traces linguistiques. Une flèche, par exemple, dans l'Avesta récent, la flèche, vous savez que les flèches sont aériennes, je crois, chez Homère même. C'est pas... Or, la flèche porte la caractéristique Manu plus Asa. C'est-à-dire que l'espace qui lui est réservé, Asa, et le Manu. Et le Manu. Ça veut dire que cette flèche, elle est aérienne, n'est-ce pas ? Elle est en l'air. Hein ? Bartholomé n'avait pas entièrement... C'est pas très apparent chez Bartholomé, parce que pour Bartholomé, le sens d'espace aérien pour Manu est secondaire. Il pense que d'abord, il y a le nom d'esprit, Geist, hein, spirit, esprit qu'on a, hein, Geist, et il comprend Manu au sens premier pour le développement sémantique comme l'espace où vivent les esprits. Et alors, accessoirement, simplification dans l'espace céleste. N'est-ce pas ? Mais c'est peut-être l'inverse dans la représentation. Hein, c'est l'idée de l'espace céleste qui est premier. Donc, alors, nous comprenons mieux jumeaux. Hein, nous comprenons mieux jumeaux. Il ne faut pas, je pense, chercher très loin dans ce cas-ci. Nuberg avait tenté des interprétations de ce type. Il avait dit, bon, si l'un des deux jumeaux est le sommeil, il pensait à Kwafna dans la strophe, de quoi le sommeil, qui le sommeil peut-il avoir pour jumeaux ? Vous voyez, l'éveil, bien sûr, la situation, l'éveil d'une part, ou bien peut-être le sommeil et la mort. Hein. On peut songer à des séries de paires complémentaires. Mais dans la mesure où le Manu est matériellement l'espace céleste, je crois que c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. C'est l'espace diurne et l'espace nocturne. L'un est ressenti comme mauvais, l'autre est ressenti comme bon, et n'oubliez pas que toute la tension rituelle de la gatha s'achemine vers un moment sacrificiel qui doit commencer, être entamé avec le lever du jour et l'apparition de l'aurore. Donc il est normal que l'espace diurne soit ressenti comme le bon Manu. C'est une chose un peu étonnante et que... En fait, que je connaissais, mais que j'avais perdu essentiellement de vue, pour non pas pour ce cours, c'était pour une autre, pour une autre prestation, je vais revérifier la vieille traduction d'Anquetil-du-Perron. Or, Anquetil-du-Perron, pourtant à l'encontre de toutes les traditions écrites de la tradition Pelvi, traduit Maniou dans tous les contextes partiels. C'est pas... il le fait parce qu'il a rapporté au mot, probablement dans ses conversations en persan avec ses informateurs parsis, il a été frappé du mot d'un des noms du ciel en persan moderne qui est Minou, et Minou est très clairement la forme moderne de Maniou, n'est-ce pas ? Il est traduisé par le ciel. Alors, il nous reste, bon, nous n'avons fait que la moitié du travail d'interprétation en reconnaissant dans les Maniou l'espace aérien. L'espace céleste, diurne et nocturne, il nous faut maintenant comprendre de quoi il est la représentation, de quoi le Maniou est la représentation sur le plan mental, afin d'essayer d'échapper à la désastreuse traduction par esprit, spirit, geist. Bien, alors, je crois, bon, je vais en revenir à un article déjà ancien qui m'a été inspiré par le travail que nous avons fait, Éric Pirard et moi, sur le texte des Gatha, mais j'y ai pensé ultérieurement. Mais très vite, si bien que par les hasards des rythmes de publication, l'article est antérieur, est paru antérieurement au troisième volume des textes vieilles avestiques dans les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. C'était en 90, c'était un numéro de 90. Il me semble que nous avons un témoignage intéressant sur le processus mental que représente le mot Maniou. Pourquoi il s'agit d'un dérivé du verbe penser ? C'est le Yasna 43. Le Yasna 43, c'est un texte... c'est le premier chapitre de la seconde gatha. C'est la gatha Ushtavaiti. Or, je vous avais expliqué, quasi en introduction, que la gatha Ushtavaiti a comme caractéristique de rassembler des textes marqués par un refrain. Les chapitres de la Gatha Ushtavaiti se présentent généralement comme cela, n'est-ce pas ? Elles ont donc une sorte d'homogénéité matérialisée par l'usage du refrain. Le refrain met un certain temps à se frayer un chemin dans le Yasna 43. Or, la Gatha Ushtavaiti, du point de vue conceptuel qui nous intéresse, a une autre caractéristique. Elle échappe au système de l'ellipse qui glisse lentement vers la mention explicite du don du feu dans une formule qui toujours est parallèle. La Gatha Ushtavaiti a effectivement la formule parallèle, mais tronquée. Et d'autre part, elle mentionne le feu très vite. Elle mentionne le feu très vite et explicitement. On trouvera ce feu dès la strophe 4, quatrième strophe de la Gatha. Yasna 43.4. Alors, le verbe penser, il est au subjonctif présent, c'est-à-dire que ça représente un futur proche. Hein. Je vais penser, mungai, penser que est, hein, c'est la construction en double accusatif. Je vais penser que toi et quelqu'un qui est désigné comme fast, spenta, et immobile. Takma, que le fast immobile au Mazda, vous êtes deux mains. Ah oui, voilà nos mains, hein, ce qui nous ont tellement servi dans le Yasna 29. Vous êtes deux mains. Et alors un peu plus loin, je ne vous donne pas tout le texte pour ne pas affronter chaque difficulté, mais j'ai isolé les éléments qui nous permettent de réfléchir. Vous êtes deux mains. Et alors il est question de faire quelque chose par la chaleur de ton feu, le mot est prononcé, qui a l'autorité de l'agencement, l'autorité d'achat. Que le fast immobile désigne bien métaphoriquement ou allusivement le feu est confirmé par une glose de l'Avesta récent, le Yasna 62.8 que je mentionne à la suite. Donc, nous sacrifions, dit le texte, au feu Spenta, premier mot, Takma, et puis Huntum Rataishtarum, et l'un des deux passages ajoute Yazum. Donc, nous sacrifions au feu bienfaisant, immobile, guerrier, Rataishtarum, et Yazum, jeune, jeune, selon l'un des deux textes. Alors, voici comment le refrain se présente dans la version de la strophe 43.7. Je vous donne celle-là parce que le contexte de cette strophe, ce n'est pas la première où ce refrain apparaît, mais le contexte ici est très intéressant pour nous. Donc, le refrain, ce sont les deux premiers vers du Yasna 43.7. « Je pense, ô Ahura Mazda, que tu es faste, que tu es spenta. » Lorsque, Yat, et voilà notre ellipse maintenant, le nom du feu a été prononcé, mais ici, il n'y a pas mention du sujet du verbe jazat. Lorsqu'il m'entoure de bonnes pensées. Lorsqu'il m'entoure. Le sujet n'est pas explicitement mentionné. Et qu'il me demande, qui es-tu ? De qui es-tu le fils ? Et alors, la strophe suivante, c'est celle dont nous avons déjà parlé, parce que c'est l'une des deux strophes à l'évidence prononcées par Zarathoustra. Eh bien, Zarathoustra dit, je lui dis d'abord ce qu'il veut dire, je lui réponds. Remarquez, hoï, pas d'élucidation du sujet de Jazat et de Pursat. Donc, je lui dis d'abord que je suis Zarathoustra. Or, ce qui se joue ici, c'est le programme tout à fait précis de la relation d'hospitalité. C'est-à-dire, si vous avez une relation d'hospitalité avec une famille, un clan ou une tribu, il faut s'identifier. Pas de carte d'identité, évidemment. Alors, le principe, le processus d'identification se fait sous les formes que vous trouvez ici. Qui es-tu ? Il faut répondre son nom. Et de qui es-tu le fils ? De qui es-tu le fils ? À quoi il faut répondre ? C'est un rite d'hospitalité. Or, n'oublions pas que le feu est l'hôte par excellence. Il est l'hôte des hommes et les hommes sont ses hôtes. La relation d'hospitalité entre le feu et les hommes sont souvent mentionnées. Alors, je mentionne la strophe 12, où nous trouvons la formule parallèle sans le nom du feu que nous trouvons dans toutes les gathas. Ici, le nom du feu n'est pas mentionné. Dans les autres gathas, c'est la première qui mentionne explicitement le nom du feu. Je ne traduis pas, puisque nous connaissons les difficultés. Et alors, ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire prononcer de manière répétitive la formule « je pense que tu es Spenta » ou « Mazda », eh bien, cette opération mentale, vocale, elle est très clairement dénommée dans le Yasna 43.16 comme un manyu. Voilà, ô Ahura Mazda, que Zarathoustra choisit, verbe choisir comme dans le Yasna 30, ton manyu, manyum, qui est le plus faste. Qui de toi est le plus faste. Alors, il me semble que nous avons clairement ici le procédé mental, n'est-ce pas ? C'est que c'est la reconnaissance d'Ahura Mazda comme le dieu Spenta, mais remarquons le parallèle. Toi, accusatif singulier enclitique du pronom de la deuxième personne du singulier, comme objet du verbe penser. Le verbe man, qui a donné par ailleurs manyu. Il est à la première personne de l'injonctif aoriste, je pense, mungi. Et puis le second, spentum, je pense que tu es spenta. Second accusatif, je pense que tu es spenta. Eh bien, j'ai tiré de ce passage en 90 la conclusion que, en fait, le manyu, c'était émettre un avis sur Ahura Mazda. C'est avoir une certaine pensée sur Ahura Mazda. L'idée que Ahura Mazda correspond, se trouve du côté du manyu bénéfique, c'est-à-dire du côté de l'espace diurne. Alors, le processus mental que traduit le mot, c'est celui de prendre conscience, d'émettre la vie que Ahura Mazda et Spenta. J'ai traduit assez souvent, c'est pas très beau dans les traductions, ça ne me satisfait pas fort, n'est-ce pas ? J'ai traduit souvent le mot Manu par avis, hein, par avis, pour éviter le mot esprit. Alors, c'est vrai comme ça, si vous voulez, nous avons notre diptyque, hein, notre diptyque matériel, c'est-à-dire l'espace céleste et mental, hein, avoir la vie que. Hein. Nous avons là, ce qui n'exclut pas, n'est-ce pas, que dans certains contextes, il nous faut songer aussi à la sémantique du mot passion. Mais au mot passion, je préférerais peut-être le mot enthousiasme, qui convient peut-être dans certains passages. Alors voilà, je vais vous laisser ici, je vous souhaiterai de bonnes vacances, de meilleurs voeux aussi, et je crois que nous avons, comme cela, peut-être essayé d'éclairer cette fameuse strophe, de la situer dans le processus liturgique qui est en cours, et de voir qu'il s'agit d'un des chaînons de la préparation sacrée du feu, avant conduisant donc au moment du sacrifice. Merci beaucoup.